Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les chats à la conquête du monde. Ils seraient environ 600 millions sur Terre, champions de mignonnerie sur Internet, boules de poils moustachus, dont les propriétaires sont accros. Ils occupent le top 1 des animaux préférés des Français notamment. Originaire du nord de l'Afrique, du Proche-Orient, d'Anatolie, le chat domestique a traversé les siècles pour se prélasser maintenant sur les canapés, gagner son statut de membre de la famille à part entière, un membre très fortement instagrammable. Mais qu'en est-il sur d'autres continents où les animaux domestiques passent rarement le seuil des maisons? Et dans le fond, que nous raconte l'attachement des humains aux chats? On va en parler avec vous, Jérôme Attal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, compositeur, interprète et heureux propriétaire d'un chat, d'une chatte très précisément. Mais peut-on d'ailleurs être le propriétaire d'un chat? D'ailleurs, vous le dites carrément dans le livre. Hein. Je sais très bien que je ne possède pas mon chat, c'est même plutôt l'inverse. Mmh. Je ne sais pas si c'est bon signe.
J'essaye d'expliquer cette relation très particulière et en même temps mystérieuse.
Vous publiez Petit éloge des chats aux éditions Les Pérégrines. Et nous sommes également en compagnie d'Éric Baratet. Bonjour.
Bonjour.
Historien à l'université Jean Moulin de Lyon, spécialiste de l'histoire de l'animal. Vous avez notamment publié Culture féline du 18e au 21e siècle. Les chats créent leur histoire aux éditions du Seuil. Mais vous-même, vous êtes plutôt propriétaire d'un chien.
Mais oui, une chienne, oui, oui, tout à fait. Mais on a des chats qui se promènent dans la propriété, donc... Il n'y a pas d'exclusive.
Et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Saint-Étienne-Loire. En fin d'émission, reportage de Charlie Dupio à Beyrouth, une librairie dans le chaos libanais. Mais tout de suite, les chats à la conquête du monde.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Forcément, j'ai du poil dans mon café, hein, ça.
S'il y a des poils dans le café de Marie-Hélène, c'est qu'elle et son mari Jean-François partagent leur maison avec leurs 35 chats.
Ah, allez, les paresseux.
Attention aux chats, hein.
Alors par là, c'est la chatterie. Tout ça, c'est l'appartement des chats.
Un charmant duplex de 120 mètres carrés, rien que pour eux, avec arbre à chat et des jouets partout.
Beaucoup manger le chat.
C'est un poisson frais qui est importé de Finlande.
C'est encore ce vilain chat, il fait des horreurs dans les coins.
Il est où ce chat?
Oh, tu fais super bien le chat.
Chat, chat,
qu'est-ce qu'il y a?
Arrêtez-le!
Allez, viens la petite loulou.
Oh, le petit chat, le petit chat.
Pour cette retraitée, ancienne chef d'entreprise dans le bâtiment, ces chats représentent un budget colossal de plus de 12 000 euros par an. Marie-Hélène élève des chats de race depuis 14 ans et trois petits nouveaux viennent d'arriver.
Romain Dubrac, très inspiré par le sujet des chats, le réalisateur de l'émission, je vous livre un commentaire d'une de nos éditrices au 33 7 64 45 51 41. Maîtresse Bertie, qui est à Yaoundé, nous dit au Cameroun, dès que tu négliges ton chat, les gens le volent pour le manger. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Eh bien, chère voisine, ailleurs... Il arrive que l'on mange aussi du chat ou que l'on nourrisse les chats errants. Et tout de suite, justement, on va partir pour la ville des chats. Où est-ce qu'on va, à votre avis, Jérôme Attal?
À Istanbul.
Exactement, direction Istanbul en Turquie, la ville des chats. Bonjour Anand Lower.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI en Turquie. Alors, comment se portent les chats d'Istanbul? Est-ce que vous en avez croisé aujourd'hui?
Oui, plein. À Istanbul, c'est impossible de mettre un pied dehors sans croiser un chat. Des chats même, parce qu'il y en a partout, dans toutes les rues. Et ça commence dès la sortie de l'immeuble, puisque un chat sera souvent posté sur le toit d'une voiture qui est garée devant votre porte, ou allongé le long des fenêtres de votre voisin du rez-de-chaussée, dans la vitrine de la pharmacie, sur la chaise en terrasse de café où vous aviez prévu de vous asseoir, ça m'arrive très souvent, ou bien dans une supérette, emmitouflée au rayon textile. Ils sont de toutes toutes les couleurs de fourrure possibles. Ils sont aussi de toutes les humeurs possibles, entre ceux qui vous fuient et ceux qui reçoivent au contraire volontiers les caresses et les gratouilles.
Ah oui, donc ça prend beaucoup de place, le chat, à Istanbul. Est-ce qu'on sait combien de chats vivent dans cette ville ?
Alors, en 2018, la mairie avait avancé un nombre étonnamment précis de 162 970 chats dans les rues d'Istanbul, ce qui ferait environ un chat pour 100 habitants aujourd'hui. On ne sait pas très bien comment le calcul a été fait, mais ce qui est sûr, c'est que ces chats ne sont pas des animaux errants. La plupart restent dans leur quartier, ils y ont leurs habitudes, les endroits où ils dorment, les endroits où ils mangent. Et tout ça, ça joue beaucoup dans la relation très particulière des Stambouliotes avec eux. Alors d'abord, ils ne sont pas du tout chassés, au contraire, ils sont les bienvenus. Et puis, soyons clairs, tous ces chats ne pourraient pas vivre dans une ville comme Istanbul si la plupart des habitants ne s'en occupaient pas, chacun à son niveau.
Et s'occuper des chats d'Istanbul, c'est une vraie tradition historique ?
Absolument, une tradition qui remonte au moins à l'Empire ottoman. Les chats étaient appréciés parce qu'ils faisaient la chasse aux rongeurs qui se faufilaient dans les maisons. Certains pensent qu'ils sont choyés en Turquie, qui est une société à large majorité musulmane, en raison de l'importance que leur accordait le prophète Mohammed. Plusieurs hadiths racontent combien celui-ci les aimait. Quoi qu'il en soit, beaucoup de Stambouliotes nourrissent les chats de leur quartier en leur laissant des croquettes devant la porte de l'immeuble ou de la boutique pour les commerçants, ou pour d'autres, en allant nourrir des dizaines de chats dans un parc près de chez eux. Certains même leur construire des abris, surtout à l'approche de l'hiver. On commence à en voir ces jours-ci à Istanbul. On ne peut pas dire autant des chiens des rues qui, eux, sont aussi très nombreux, mais qui ne sont pas toujours les bienvenus. Certains les craignent, les jugent porteurs de maladies, alors même qu'ils sont comme les chats, sous l'étroite surveillance quand même des services vétérinaires de la ville.
Et justement, comment la mairie d'Istanbul s'occupe de ces chats sur le plan vétérinaire, sur le plan de l'hygiène ?
Alors, elle joue un rôle essentiel. D'ailleurs, s'occuper des chats et des chiens des rues, c'est-à-dire les soigner, les protéger, ça fait légalement partie des missions des mairies en Turquie. Elles ont l'obligation aussi de stériliser tous les animaux des rues et de les remettre dans le quartier où ils ont été trouvés. Qui est plus simple à faire quand même avec les chiens qu'avec les chats. Pour les animaux qui sont malades ou qui sont blessés, la mairie d'Istanbul dispose de cliniques ambulantes et de centres de soins qui se déclinent aussi au niveau de chaque arrondissement. Et puis le plus souvent, encore une fois, ce sont vraiment les habitants qui vont alerter la mairie quand ils repèrent un animal mal en point. Donc à Istanbul, les humains et les chats, on peut dire qu'ils cohabitent paisiblement. Et les premiers ne résistent pas toujours à la tentation d'adopter un chat des rues. Ça a été mon cas à une époque, même si ce n'est pas forcément l'idéal pour ces animaux qui sont habitués quand même à une totale liberté.
En tout cas, vous avez l'air de bien les connaître. Merci Anand Lauer, correspondante de RFI à Istanbul. Merci à vous.
8 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour les voisins, bonjour les voisins.
Et bonjour.
Nous sommes là, nous sommes ensemble.
Et allô ?
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Jérôme Attal et Éric Baraté, que vous évoque cette liberté des félins, la solidarité aussi dont ils bénéficient, presque plus que les humains en temps de guerre, je dirais.
Ouais, ce que dit votre correspondante, qui est très juste, c'est cette dualité entre l'aspect sauvage et l'aspect domestique et la tentation que nous avons, êtres humains, de s'occuper d'eux ou de les amener, de les faire venir dans notre monde à nous, alors qu'ils n'y sont jamais vraiment. Moi, ce que j'aime beaucoup, le personnage de Catwoman, par exemple, dans les DC Comics, les concurrents des Marvel, et Catwoman, c'est comme ça, c'est un être du rebord. Elle n'est jamais dans le monde de la justice, ni dans le monde des criminels. Elle est entre les deux, elle est toujours sur le rebord de fenêtre, et elle me fait penser à mon chat qui n'aime jamais que la porte soit entièrement fermée. Il faut toujours que la tentation de l'indépendance soit présente.
La nuit, tous les chats sont gris, ouais. C'est ça. Éric Baraté, et pour vous, alors, cette liberté des félins, est-ce qu'elle correspond à notre époque aujourd'hui ?
Bah, elle correspond à une certaine forme de relation. Ça montre d'ailleurs que les chats peuvent s'adapter à des relations très différentes. Ce qui se passe à Istanbul, évidemment, n'existe pas chez nous. Nous avons construit une autre relation avec les chats et ça donne des chats très différents. À Istanbul, ce sont plutôt soit des chats errants, c'est-à-dire qui vivent en autonomie à l'intérieur de la ville, soit des chats vagabonds qui vont d'un maître à l'autre ou d'un nourrisson nourrisseur à l'autre, et ça donne des relations extrêmement différentes. Et vous avez cité tout à l'heure quelqu'un pour l'Afrique, là aussi c'est une autre relation. Ça montre que les chats sont suffisamment plastiques, suffisamment adaptables au niveau comportement pour pouvoir vivre dans des sociétés extrêmement différentes.
Jérôme Attal, dans votre livre, vous citez d'entrée de jeu ce proverbe chinois en préambule. Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas.
Ouais. C'est comme tous les proverbes chinois, hein. C'est assez étonnant et plein de réalité et plein de mystères et de surprises à la fois.
Sauf que pour vous, Éric Baraté, les chats seraient de plus en plus domestiqués, donc finalement de plus en plus faciles à attraper dans une pièce sombre.
Oui, alors en Occident, dans le modèle occidental, hein, qui est en train de se répandre petit à petit, notamment au Japon et dans d'autres pays, mais c'est un mode de relation au chat, et c'est vrai que récemment, nous avons, depuis 30-40 ans, nous avons totalement changé notre relation au chat. C'était un animal assez mal vu jusqu'au milieu du XXe siècle, et qui en quelques décennies est devenu la coqueluche des animaux. Animaux de compagnie. Mais ça veut dire que les humains, enfin les occidentaux, plutôt l'Europe de l'Ouest, les pays anglophones d'Amérique du Nord, les pays anglophones du Pacifique, en réalité, ces populations-là, humaines-là, ont changé leur approche du chat. Et en échange, les chats ont changé de comportement. Mmh. C'est-à-dire que les uns et les autres se rapprochent. Mais
Et pourquoi les pays anglophones? Parce que c'était aussi lié au mode de vie urbain? Parce que c'est vrai que c'est l'animal domestique le plus pratique dans un appartement, quand même.
Ça vient
besoin de le sortir.
Oui.
Il peut rester enfermé tout le temps.
C'est venu, en fait, des pays anglophones du Pacifique. Hein. C'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui a installé, il y a 30-40 ans, ce nouveau rapport. Effectivement, pour des raisons pratiques, en partie, parce que c'est plus facile qu'un chien. Et donc, en ville, on croit qu'on n'a pas à le sortir, qu'il peut rester dans un appartement. Ce qui n'est pas toujours évident, en fait, selon le chat, on le croit. Ça peut entraîner des déprimes de la part du chat. Et ce sont eux qui ont inventé cette nouvelle relation beaucoup plus proche. Mmh. En fait, ils ont reporté sur ces chats la relation qu'on avait inventée au XXe siècle avec les chiens de compagnie. Et de là, c'est passé aux États-Unis et maintenant, c'est en train de se développer en Europe de l'Ouest.
On va bien sûr en parler, hein, avec vous, Éric Baraté. Je vous lis quelques messages d'auditeurs. Étienne, qui est au Burundi, nous dit « Les chats ne servent à rien. En plus, ils transmettent certaines maladies. » Alain, à Kinshasa, n'est pas d'accord. « Le chat est très utile. Il nous protège des serpents et des rongeurs. Les chats sont un exemple à suivre aussi parce qu'ils observent beaucoup avant d'agir. » Et Dodzi, à Lomé au Togo, est un voisin en deuil. « Mon chat est mort. Il était mon ami. On se parlait. Mon chat comprenait ce que je lui disais et il me répondait en miaulant. Je partageais mon temps avec lui, je lui achetais ses repas préférés, je le traitais bien. » Voilà, et bien Dodzi, cette émission est dédiée à votre chat disparu. Jérôme Attal, vous restez avec nous, avec Éric Baraté. Nous commençons tout juste à explorer le mystère des chats, l'attachement aussi parfois démesuré des humains pour cet animal domestique qui a surpassé le chien dans certains pays. Jérôme Attal, vous avez écrit des chansons pour des artistes célèbres.
Ah oui, c'est vrai.
Johnny,
c'est vrai.
Vanessa Paradis, que votre chat aime la musique?
Ben oui, il est un peu obligé parce que j'écris aussi des chansons, donc il est...
Il est sur vos genoux quand vous composez?
Ah, j'adorerais ça, mais je crois qu'il a un peu peur du piano et de la guitare, mais il est dans les parages en tout cas.
Un truc pour ronronner devant la cheminée avec votre chat par un jour de pluie, Lady Vray, A Piece of Me. You've been the best of times, you walk me through my darkest days. What must I turn around, I ask myself. Why it's hard to walk away.
You've been around so long, you did me wrong, but it made me strong. I believed in you, you were leading me to lean on you. But when I reached for you, you were not there. I'm not really sure these days, sure these days, sure these days. Blood is thicker than mud, you know. It may sound simple, but that's all I know.
Bien chez 8 milliards de voisins, sur RFI, surtout si vous aimez les chats passionnément, et pour ceux qui les détestent ou qui sont finalement assez indifférents, passez votre chemin ou bien laissez-vous surprendre. On en discute avec vous, Jérôme Attal. Vous écrivez dans votre petit éloge des chats qu'un foyer sans chat est comme un appartement sans livre, fade, incomplet, sans esprit, sans charme. On ne s'y sent pas en présence d'une présence qui nous dépasse, qui nous réconforte à la fois. Alors pourquoi vous associez autant les chats à la littérature et même au cinéma ?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que la rédemption des chats par rapport à la Renaissance où ils étaient associés aux sorcières et au mal et au diable vient des artistes justement. Léonard de Vinci commence à peindre des madones aux chats à la même époque où le pape voue les femmes au bûcher et les femmes et leurs familiers, donc leurs chats. Et on parlait tout à l'heure de l'Angleterre, c'est vrai qu'un artiste comme Louis Sven, qui était un dessinateur, un illustrateur, a commencé à dessiner des chats dans des situations de la vie de tous les jours. Et tous les enfants londoniens, tous les enfants anglais ont voulu des chats à Noël comme des jouets finalement.
Une sorte de personnification finalement.
Ouais. Et effectivement, le chat et l'artiste ont pour moi beaucoup de rapports. Il y a beaucoup de grands écrivains qui sont indissociables des chats, comme Colette, comme Victor Hugo, enfin Bukowski, la liste est très longue. Mais je pense que c'est cette dualité entre le fait d'avoir besoin des autres et d'être très indépendant, le fait de choisir finalement son territoire, de pouvoir agrandir son territoire à sa guise. Il me semble qu'il y a beaucoup de familiarité et de rapprochement entre la création, l'écriture et l'existence de la vie du chat. Et puis c'est aussi un être de petites habitudes, et je crois qu'un écrivain c'est un être de petites habitudes. Moi j'adore connaître les petits secrets des écrivains, et il y a un truc qui m'avait frappé, Marguerite Duras, elle racontait qu'elle n'écrivait jamais sans faire son lit au préalable. Et donc, moi, chaque fois que le matin, je dois écrire, je fais mon lit, voilà. Et mon chat, je dois le dire, a ses habitudes, et il semble très heureux dans une succession comme ça de petites habitudes.
Et plutôt que de dire « rat de bibliothèque », vous proposez qu'on dise « chat de bibliothèque ».
Ben oui, parce qu'il vit...
Votre chat ne lacère pas vos livres, donc.
Non, mais il vit dans très peu de mètres carrés, parce que je suis un auteur. Hein, donc, j'ai un petit appartement. Et dans dans cet appartement, il y a beaucoup de livres, comme vous pouvez imaginer. Et mon chat découvre à chaque fois dans un petit espace de nouveaux labyrinthes, de nouvelles sources d'amusement.
Entre les piles de livres ?
Oui, et c'est ce que je dis, c'est un peu le Magellan ou le Vasco de Gama de mon appartement, ce chat.
Je vous lis un message de Franck à Abidjan. Il nous dit « Je me sens très à l'aise avec les chats. Ils me sont plus proches que des frères éloignés. Quand il y a un souci à la maison, les chats le sentent avant les autres. »
C'est très beau, pardon, mais je réagis parce qu'il y a une phrase de Cocteau qui adorait les chats. Cocteau, il dit même « Je préfère les chats aux chiens parce qu'il n'y a pas de chat policier. » Mais Cocteau, il dit que écrire ou peindre ou faire de la musique ou la démarche artistique, c'est retrouver finalement des frères et des sœurs qui seraient éparpillés dans le monde comme les branches d'une étoile qui auraient été éloignées. Et c'est exactement ce que dit votre auditeur.
Une forme
c'est
de diaspora des chats. Éric Baraté, vous qui êtes historien à l'université Jean Moulin de Lyon, vous ne pouvez vous empêcher de mettre en concurrence d'une certaine manière les chats et les chiens. Les chats ont très largement aujourd'hui supplanté les chiens, on va dire au moins dans l'espace virtuel, sur les autoroutes de l'Internet, et on va y revenir. Mais quand Franck nous disait que quand il y a un souci à la maison, les chats le sentent avant les autres, qu'est-ce que ça vous évoque par rapport aux chiens ?
Oh, c'est la même chose, hein. Chien et chat, on se rend compte que les animaux nous perçoivent beaucoup mieux que nous faisons par rapport à eux, hein. Les chiens ressentent énormément les émotions des humains. On emploie maintenant des chiens thérapeutes, hein, dans les maisons de retraite, oui, dans les hôpitaux, et aussi des chats. Et c'est vrai qu'ils ont une sensibilité extrêmement forte. Mais pour cela, il faut que ce soit des chats qui veuillent bien rentrer en contact avec les humains. Au 19e siècle, où il y avait beaucoup de chats de gouttière qui vivaient en ville, mais qui ne vivaient avec que très très peu de contact avec les humains.
Et ils contrairement à Istanbul, peu, dont on parlait tout, hein, à l'heure.
Voilà, ils ressentaient très peu les émotions. Il faut qu'il y ait un... Pour que le chat ressente vos émotions et que vous ressentiez, que vous arriviez à lire votre chat, il faut qu'il y ait un rapprochement. Et ça, évidemment, il faut que ce soit réciproque, hein. S'il y a une hostilité quelque part de l'un ou de l'autre, la liaison ne fonctionne pas. Et c'est pareil pour les chiens. Pendant très très longtemps, on a eu des populations de chats ou de chiens avec lesquels les urbains ou dans les villes ou dans les campagnes, on voulait avoir très très peu de contact, hein. Plusieurs témoignages que vous avez lus sur l'Afrique m'ont fait penser à cette situation qui a existé en Occident jusqu'à la première moitié du XXe siècle.
Justement, je vais vous lire le message de Claudia qui est à Kolwezi, dans le sud de la RDC, République démocratique du Congo. Elle nous dit « Le chat est l'animal le plus proche de l'homme. Il se plaît dans nos bras, il veut partager notre lit, mais les Africains en général ne les aiment pas trop car c'est un animal que les sorciers utilisent. » Bon, c'est son point de vue, on voit bien qu'il y a énormément d'auditeurs sur le continent africain qui sont attachés à leur chat, mais on voit bien qu'il y a cette relation un peu ambivalente, femme sorcière à chat.
L'animal d'Hermione Granger dans Harry Potter, c'est un chat.
Oui,
et ce chat avec associé à la sorcellerie, qu'est-ce que ça vous évoque, Hermione?
C'est une vieille,
vieille histoire.
13e, 14e siècle où on s'est lancé dans la chasse aux sorcières et on a associé très rapidement chat et sorcellerie. On était persuadé que les sorcières utilisaient les chats pour lancer des sorts et puis qu'elles allaient au sabbat adorer Satan avec leur chat et que Satan d'ailleurs se montrait en forme de chat. Hein, et il y a une légende qui a couru jusqu'au 18e siècle. On était persuadé que la veille de la Saint-Jean, les chats allaient au sabbat vénérer Satan, d'où l'expression « il n'y a plus un chat » parce que tous les chats étaient partis. Et le lendemain, le jour de la Saint-Jean, et ben pour conjurer ce mauvais sort, dans de nombreuses villes, on attrapait quelques chats et on les brûlait vivants. Il s'agissait de conjurer cette alliance entre chats et sorcellerie en tuant quelques-uns. Et ça a duré jusqu'au XVIIIe siècle à peu près.
Alors Dodzi nous disait tout à l'heure à Lomé au Togo que lui, bah, il parlait avec son chat, que son chat le comprenait, lui répondait même. Il y a une étude américaine, parce que vous nous disiez bien que pour qu'il y ait cette symbiose et ce dialogue entre l'humain et le chat, il faut qu'il y ait des contacts et que les chats de gouttière qui restent sauvages dans la ville ne sont pas capables de ce dialogue avec les humains. Il y a une étude américaine de l'Unity College qui a, on a présenté aux chats quatre possibilités de stimulus, de la nourriture, un jouet, une odeur ou une interaction avec un humain. Et la plupart des chats ont choisi effectivement l'humain. La nourriture n'arrivait qu'en deuxième position. Peut-être qu'ils étaient déjà très bien nourris, je ne sais pas. Mais est-ce que ça témoigne vraiment aujourd'hui de la domestication extrême du chat? C'est-à-dire, ça y est, c'est fini. Le chat est définitivement dans les maisons, totalement domestiqué, Eric Baraté?
Non, c'est une population de chats. C'est ce que j'appelle les chats-chiens. Hein.
Les chats-chiens.
C'est-à-dire les chats...
C'est une insulte suprême pour vous ou pas, finalement?
Non, pas du tout, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des chiens. Ça veut dire qu'ils se comportent petit à petit à la manière des chiens, c'est-à-dire qu'ils deviennent solliciteurs, joueurs. Et maintenant, ils font glande sétier de séparation. Si leurs maîtres s'en vont, les vétérinaires voient se développer ce phénomène. Mais ça existe pour une population de chats occidentaux. Mmh. Dans beaucoup d'autres continents, ce n'est pas ça ou ce n'est pas encore ça. Et même en Occident, il y a encore beaucoup de chats qui sont des chats vagabonds et qui n'ont pas cette relation-là.
Jérôme Attal, votre chatte plus précisément,
oui,
est une chatte chienne?
Oui, alors pas autant que je le désirerais. Mais non, elle garde quand même son caractère, son indépendance. Elle est capable de vengeance, elle est capable de, si je m'absente trop longtemps pour aller dans les librairies avec mes livres, par exemple. Elle me fait un peu la tête et en même temps, oui, je crois qu'elle se souvient, qu'elle a une mémoire. Moi, j'adore cette intelligence sensible chez les chats. Ce qu'il y a de plus beau quand vous arrivez quelque part, dans un endroit que vous ne connaissez pas, quand vous allez dans une soirée ou chez des amis ou chez des gens, quand le chat de la maison vient s'asseoir sur vos genoux, vous avez l'impression d'avoir une couronne sur la tête un petit peu. Il y a une espèce de mystère qui tombe sur vous, qui fond sur vous. Et oui, alors mon chat qui s'appelle Mitzi, c'est une chatte, une femelle. Et elle a des rapports, j'adorerais qu'elle ait plus encore des rapports de chat-chienne avec moi.
Vous avez renoncé à toute punition, aux remontrances quand votre chat fait une bêtise.
Oui, d'autant que j'ai lu le livre de Claude Beata qui raconte que le chat a un petit carnet noir dans lequel il note toutes les punitions et qu'il ne faut donc jamais punir son chat. Cela dit, je trouve qu'il ne faut jamais punir personne dans l'absolu.
8 milliards de voisins.
Bonjour, bonsoir. La RFI, la radio RFI.
Je suis Sita, je vous écoute à Abidjan.
Moi, c'est Monsieur Steve. Merci et à tout à l'heure.
8 milliards de voisins, une population qui s'agrandit, de nouveaux défis et encore plus d'opportunités.
RFI, la radio du monde, on est ensemble.
Est-ce qu'on peut établir, alors, dans cette nouvelle population de chats-chiens, comme vous les décrivez, Eric Baraté, c'est-à-dire des chats extrêmement domestiqués, qui ont évolué au fil des siècles pour se modeler selon les désirs, les fantasmes des humains, est-ce qu'on peut établir une typologie des chats que tout le monde s'arrache aujourd'hui ?
Oui, ce sont ces chats-là. Il suffit de regarder sur YouTube toutes les petites vidéos. C'est ça que veulent les gens, c'est-à-dire un chat extrêmement proche. Alors, on en est maintenant à construire des races. Les races de chats sont en train de se multiplier, alors qu'il y en avait très peu jusqu'à présent, à la différence des chiens. Voilà. Et on est en train de construire ces races, alors, justement, sur cette proximité avec l'humain. Hein,
C'est-à-dire qu'en fait, on le veut joueur et câlin, indépendant et jaloux, pensif, mais pas non plus dépressif.
Oui, voilà. Alors oui, mais alors c'est tout à fait contradictoire, hein, parce que vouloir un chat qui soit très proche de vous et en même temps penser qu'on peut le laisser deux jours dans l'appartement tout seul, ça devient contradictoire. Il y a encore 50 ans, c'était possible parce qu'on avait des chats beaucoup plus indépendants.
Ouais. Jérôme Attal, vous faites pas ça.
Non, je me fais engueuler. Non, pas du tout. Non, moi j'essaie de. En fait, j'ai une amoureuse qui s'occupe du chat quand je suis pas là. On a la garde alternée du chat. Donc, on ne se voit jamais, mais c'est ce qui préserve l'amour, je pense aussi.
Mais vous n'avez pas renoncé à faire des rencontres, à lier connaissances, en montrant des photos. Vous sentez un peu, vous racontez dans votre livre que vous sentez un peu bête parfois quand vous sortez des photos de votre chat.
Alors, je raconte que je suis encore très, très gêné de dire, voilà, je vais vous montrer une photo de ma chatte. Pourtant, je suis un garçon. Hein. Mais oui, donc je fais tout un chapitre là-dessus. Mais non, je trouve qu'il y a une proximité et il y a une facilité à se montrer sur le téléphone des photos de ces chats.
Vous n'avez pas honte de la mignonnerie sur Internet ?
Non, pas du tout. Je n'ai jamais honte de la mignonnerie. Dans ce monde violent dans lequel nous sommes, il ne faudrait jamais, voyons Emmanuel, avoir honte de la mignonnerie.
Mais comment, tout de même, Éric Baraté, on a pu tomber aussi bas pour que les vidéos de chats soient présentes à ce point-là, en masse, dont certaines sont complètement ridicules ?
Oui, alors évidemment, quand vous avez un phénomène de masse, on a tout et son contraire, et on a des choses intelligentes et des choses totalement ridicules. Mais ça montre bien cette fusion, ce bouillonnement vis-à-vis des chats qui n'existe pas pour les chiens, ou d'une manière aussi forte, montre bien que finalement on a un peu trouvé l'animal qui convient à nos sociétés contemporaines, hein, c'est-à-dire que un animal à la fois présent mais discret. Finalement, dans un appartement, il occupe pas la même place qu'un chien qui va se mettre à aboyer, à courir, etc.
Donc, en fait, on a façonné le chat vraiment par rapport aux besoins des humains qui vivent en ville, comme on façonnerait un meuble d'une certaine manière.
Oui, ben, on a en même temps, on pourrait dire, le chat a façonné aussi ses maîtres, hein, dans le sens, ben oui, parce que les maîtres qui ont des chats chiens ne se comportent pas de la même manière que les humains qui avaient des chiens de gouttière. Hein, il ne vient pas à l'idée d'un maître de chat-chien de manger son chat le soir, hein, ou de lui donner des coups de pied, ou de le violenter, etc. Donc, ce sont les deux qui se sont domestiqués réciproquement.
Bon, le chat adoucit les mœurs.
Exactement.
Jérôme Attal, qu'est-ce qu'on a, dans le fond, à apprendre des chats ? Vous dites que quand vous regardez dans les appartements de vos voisins et de vos voisines par la fenêtre, vous voyez les chiens dans la rue, forcément, on les sort le soir pour aller pour qu'ils fassent leurs besoins. Et dans les appartements, on voit des chats, mais qui sont souvent avec des humains seuls.
Oui, c'est assez joli dans les appartements parisiens où toutes ces fenêtres sont éclairées et on voit on aperçoit l'intimité des gens par petites cases. Parfois, il y a une présence poétique d'un chat qui se profile comme ça. Et ça fait un peu penser au dessin de Sempé, qui a aussi beaucoup dessiné les chats.
Par petites touches.
Et oui, puis dans des cases aussi, souvent, et dans des petites vignettes, comme on peut voir les fenêtres des immeubles, et dans lesquelles il y avait souvent des chats qui donnent une présence. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est comme les livres, hein, ça donne une présence dans un appartement qui tout de suite est de l'ordre du bien-être et de l'ordre du mystère aussi.
Mais est-ce que les chats ont trouvé leur place parce que les appartements se sont vidés des grandes familles ou pas ?
Alors il y a des chats qui s'en vont aussi, hein. Il y a des chats qui disparaissent et puis qui reviennent dans les appartements. Mitzi, elle est très casanière, donc elle reste à la maison. Mais il y a des chats qui partent parfois et qui font des longs périples, des odyssées quasiment homériennes et qui finissent par revenir chez leur propriétaire, chez leur maître ou
d'ailleurs,
leur maîtresse.
Vous racontez une histoire assez triste dans votre livre, d'une femme qui ne va jamais retrouver son chat perdu près de la gare de Lyon.
Ah oui. C'est mon amie Elisabeth Anaïs, qui est une autrice de chansons.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on sait, dans le fond, de la douleur de ceux qui perdent leur chat ?
Mais elle, c'est dingue, parce que son chat s'est échappé gare de Lyon, de son sac de transport, et elle l'a cherché pendant des jours et des semaines et des mois, tous les soirs et toutes les nuits, elle allait gare de Lyon, tellement elle était attachée à ce chat, et elle a rencontré toute une population de personnages qui hantent les nuits de la gare de Lyon et ses environs, des sans-domicile fixe, des gens qui sortent de soirées, de boîte de nuit, et tous ces gens-là l'ont accompagné pour ce but ultime qui était de retrouver ce chat. Et il y a toute une aventure un peu poétique, mais comme dans le film de Cédric Clapiche qui est « Chacun cherche son chat ».
C'est ce que j'allais dire. C'est un exercice de diction, vous l'avez très bien prononcé, bien connu.
Merci,
mais c'est aussi une philosophie de la douleur individualiste, non ?
Et en même temps, dans le film de Clapiche, tout le quartier est concerné par la recherche de ce chat. Ça devient une espèce de quête et voilà, c'est un but qui devient supérieur, retrouver l'âme, en quelque sorte, de la maison ou l'âme de la personne qui a perdu le chat.
Est-ce que dans nos sociétés contemporaines, Éric Baraté, on ne finit pas par s'occuper trop des chats par rapport aux humains ?
Non, je crois pas, parce qu'en réalité, les chats comme les chiens sont des intermédiaires entre humains. Là, l'affaire de la gare de Lyon montre bien finalement que le prétexte du chien permet une sociabilité entre
humains. Le prétexte du chat
permet une sociabilité entre humains qui ne se sera jamais rencontré, jamais parlé. Et dans les villes maintenant, on sait très bien que ça permet des rencontres, ça permet de discuter, sortir les photos de son chat, comme on a dit tout à l'heure, ça permet des liaisons entre humains qui n'existeraient pas autrement. Donc ces animaux deviennent des intermédiaires extrêmement importants.
Oui.
Hein, là, il faut sortir de la vision balzacienne, Ignace, les misanthropes endurcis et célibataires qui aiment les animaux. Hein.
Non. Alors, il faut quand même qu'on parle des chats et de l'écologie, parce que dans les campagnes à l'heure actuelle, il y a beaucoup de chats errants, contrairement à ce qu'on imagine, sont accusés d'ailleurs de tuer des espèces protégées d'oiseaux. Les chats domestiques aussi, ils tuent entre 1,4 milliard et 3,7 milliards d'oiseaux par an sur Terre, hein, bien évidemment. Ça peut devenir un problème, Éric Baraté.
Bien sûr. Alors, c'est pas tellement dans les campagnes, hein, c'est les banlieues pavillonnaires où il y a une forte biodiversité, contrairement dans les campagnes où souvent à coup d'insecticides on a tout tué. Et dans ces banlieues pavillonnaires, il y a beaucoup de chats maintenant, des chats qui se promènent et qui font un gros ravage. Nous sommes passés en France de 7 millions de chats il y a 30-40 ans à 15 millions maintenant. Ça n'est pas sans incidence sur la biodiversité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tuer les chats, hein, et se lancer dans des campagnes anti-chats.
Jérôme Attal.
Oui, il y a un très beau poème de Jacques Prévert qui raconte l'enterrement d'un oiseau suivi par une petite fille, et le chat se mêle au cortège et à la procession, et le chat dit à la petite fille: mais si j'avais su que ça te faisait tant de peine, cette mort de l'oiseau, je l'aurais avalé tout entier, j'en aurais pas laissé la moitié, et je t'aurais dit
parce qu'elle porte le cadavre, c'est horrible.
Et je t'aurais dit que l'oiseau s'est envolé.
Et tu m'aurais cru.
Ouais, et tu m'aurais cru. Et le poème de Prévert est très très beau.
Est-ce que les chats vont finir écrasés par l'amour des humains, Éric Baraté?
Non, je ne crois pas. Ils ont la plasticité pour s'adapter. Alors, par contre, ce qui peut se passer, un peu comme ça, c'est en train de se passer pour les chats, c'est un jour un désamour. Hein, c'est-à-dire que les chiens étaient plus de 10 millions il y a 30 ans. Ils ne sont plus que 7 millions. C'est les chats qui les ont remplacés.
Ouais.
Peut-être qu'on aura un autre type d'animaux dans 30, 40, 50 ans.
Hein. Le hamster.
Oui,
c'est la proposition.
Serpent, le crocodile.
Merci à tous les deux. Jérôme Attal, vous publiez Petit éloge des chats aux éditions Les Pérégrines. Et merci à vous, Éric Baraté, d'avoir été en liaison avec nous. Vous avez publié notamment Culture féline, du 18e au 21e siècle, les chats créent leur histoire, aux éditions du Seuil. C'est sorti en 2021. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Dans quelques instants, reportage à Beyrouth, une librairie dans le chaos libanais. Les livres, la littérature sont-elles devenues un luxe vital pour supporter la vie à Beyrouth? Ça sera juste après cette artiste libanaise qui est aussi architecte et enseignante à Beyrouth, Meïssa Djalad. reportage dans un lieu à part, à Beyrouth, au Liban, au micro de notre reporter Charlie Dupiau. Nous voici au cœur d'Alias Book, une librairie indépendante où se retrouve depuis 2016 une partie de la jeunesse de la capitale. À l'origine, en fait, ce sont deux amis passionnés de littérature installés au Liban, William Dobson et Niamh Fleming Farrell, irlandaise. 7 ans après l'ouverture dans ce café-bar-librairie, eh bien, l'équipe est à l'image de la population libanaise, très diversifiée. Visite avec le cofondateur William Dobson.
Alors, nous voici à Jemaizeh. C'est l'un des quartiers branchés de l'est de Beyrouth. Et nous passons par l'une des entrées de la librairie. En face de nous, on a le comptoir du bar. De 9h du matin jusqu'à minuit, c'est à la fois un café et un bar ici. Comme les marges sur les ventes de livres étaient extrêmement faibles, on avait besoin de trouver beaucoup d'autres sources de revenus. C'est pour ça qu'on a pris cet espace tout entier, pour en faire un café la journée.
Si on doit parler de la décoration, c'est une grande salle avec des tables, des fauteuils, du parquet. Au mur, on a un carrelage noir et blanc. Et au fond, on peut voir les livres de la librairie.
Oui, c'est ça.
Alors, il y a par exemple un livre « History of Modern Lebanon », donc « Histoire du Liban moderne ». Il y a des essais.
On a aussi des classiques de la littérature, comme Dickens ou des livres de Gabriel Garcia Marquez.
Et vous avez combien de livres là ?
On en compte environ 1500, si on inclut les livres d'occasion. Alias Book a commencé initialement comme un club de lecture de 20 personnes. L'idée était de tenter de créer un espace où on pourrait entrer et trouver des gens qui s'y connaîtraient en littérature, et notamment en livres en anglais.
Donc là, ce sont seulement des livres en anglais.
Oui, seulement en anglais. Mais ici, au Liban, les gens sont souvent trilingues. Ils peuvent parler français, anglais et arabe. Malheureusement, on a été très affecté par l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Les fenêtres ont été soufflées. Les livres ont fini avec une énorme quantité de verre à l'intérieur.
Parce qu'on est vraiment à côté du port.
On est vraiment à 800 mètres de l'épicentre de l'explosion. Et l'explosion est arrivée en plein milieu d'une crise économique. Dans ce contexte, certaines choses deviennent un luxe, même si à mes yeux elles sont essentielles. Bien sûr, pour beaucoup de gens, c'est un luxe d'acheter un nouveau livre. Je pense que dès le départ, on était très populaire au sein de la communauté LGBTQ+, la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre. Il y avait aussi dès le début des gens qui voulaient discuter ici autour d'idées politiques, des gens contestataires. Et bien sûr, c'est extrêmement important d'avoir une équipe représentative de la diversité démographique du territoire libanais.
Hey. Salut, comment ça va ?
How are you ?
Ça va, et toi ?
What can we get you ?
Qu'est-ce que tu veux boire ?
J'aimerais commander le Mount Lebanon Gimlet, s'il te plaît.
Gimlet ? Yeah.
Gimlet ? Ok, je t'amène ça.
Qu'est-ce que c'est comme cocktail ?
All the ingredients are Lebanese.
Tous les ingrédients sont libanais. C'est un cocktail à base de gin libanais, il y a du miel libanais et du jus de citron.
I started working here actually about 6 years ago.
Moi, je travaille ici depuis 6 ans. J'ai commencé comme serveur et puis j'ai été promu pour devenir associé.
Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce lieu ?
From Syria.
En fait, moi je suis originaire de Syrie. Je suis venu ici en 2017 pour fuir la guerre et pour ne pas avoir à faire le service militaire. Je suis donc parti pour le Liban et j'ai cherché des emplois. Quand je suis arrivé, je n'ai pas eu la chance de travailler dans mon domaine. J'ai étudié les réseaux informatiques, mais je n'ai pas eu la chance de travailler là-dedans ici. Bien sûr, il y a eu des difficultés et puis il y a du racisme. On entend que le pays est rempli de travailleurs syriens qui volent le travail des Libanais, des choses comme ça. Mais ici, dans cet endroit, on ne sent pas ça. Je peux vous proposer quelque chose ?
Moscow Mule ?
Un Moscow Mule ?
Yeah,
got you. Ok, c'est parti.
My name is William. I'm 23 years.
Je m'appelle William et j'ai 23 ans.
I've been working here, alias,
Je travaille ici à Alias depuis 3 ans. J'ai fait des études d'infirmier, donc j'exerce comme infirmier déclaré. Je travaille le jour en salle d'opération à l'hôpital, et puis je bosse ici en soirée à Alias, à temps partiel. Certains jours, je travaille 16 heures. C'est un peu épuisant, bien sûr, mais je m'y habitue. À cause de la crise économique en ce moment au Liban, j'ai besoin d'argent en plus. Dans ce café-librairie, les trois grandes religions du Liban sont représentées. Nous avons les druzes, moi-même j'en suis un, c'est une religion islamique. Nous avons des chrétiens et d'autres branches de la religion musulmane. Et on ne parle pas de ce sujet entre nous. Nous respectons toutes les autres religions. On ne se demande pas d'où l'on vient, ni de quelle religion on est.
Bonjour.
Hi, my name is Rafi. I work as Alia's.
Bonjour, je suis Rafi. Je travaille en tant que responsable des événements dans ce café librairie et je suis aussi leur consultante en réseaux sociaux. Je suis née et j'ai grandi dans le sud du Liban au sein d'une famille musulmane très conservatrice. À l'âge de 17 ans, je suis partie aux États-Unis pour étudier, passer une licence et un master. Puis je suis revenue au Liban. Depuis, je vis à Beyrouth.
Et comment votre famille voit le fait que vous travaillez ici?
They don't know. I'm not.
Ils ne sont pas au courant. Ils n'aimeraient pas.
Et quand on vous voit, vous avez un piercing, des boucles d'oreilles, des cheveux blonds, teints, des lunettes rouges, un certain style.
They definitely don't like my style.
Dans ma famille, ils n'aiment clairement pas mon style. Ils le détestent même. Et vous ne pouvez pas le voir là, mais mes bras sont tatoués. Donc c'est pour vous dire comment je vois cet endroit, comme un lieu sûr. Et par exemple, ici, nous avons un club de lecture où on a discuté d'un livre qui s'appelle « Cet arabe est queer », c'est-à-dire membre de la communauté LGBTQ. C'est chouette de voir un endroit qui organise et relaie de manière active ce genre d'événement. Surtout que maintenant, il existe une grande défiance à l'encontre de la communauté queer au Liban. Le pays entier parle de nous, la communauté LGBT, comme si on était des monstres. On a toujours voulu que cet endroit, Alias Books, reflète le monde dans lequel on aimerait vivre plutôt que le monde dans lequel on vit réellement. C'est important pour nous d'accueillir ces événements, même au milieu de ces sensibilités, parce que cela montre vraiment qu'il y a toujours de la résistance au bout du compte.
Reportage de Charlie Dupiot à Beyrouth. Les deux cofondateurs ont nommé cette librairie d'après le personnage principal du livre « Des vies de papier » de l'écrivain libanais Rabia Alameddine. Alia est une femme dans ce roman divorcée de 72 ans qui travaille dans une librairie justement à Beyrouth.
8 milliards de voisins.
Comment les gens vivent? Qu'est-ce qu'ils font?
Être voisin, c'est partager le même espace, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies.
RFI, les voix du monde. 8 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.